Bienvenue dans la nouvelle saison du Labomatique, l'émission scientifique de Radio Campus Rennes. Samedi 26 septembre avait lieu à la Maison des Associations de Rennes la journée Sciences et Musique, en ouverture de la 10e édition du Festival des Sciences qui se tiendra jusqu'au 11 octobre. Pour ce premier épisode du Labomatique, nous nous interrogeons sur la manière dont la musique peut communiquer des attitudes sociales, avec Jean-Julien Couturier, chercheur au CNRS. Puis nous évoquerons, seconde partie d'émission, le passage du robot Nao, accompagné d'un de ses concepteurs, Antoine Deleforge, chercheur en traitement du signal et en intelligence artificielle à l'université d'Erlangen en Allemagne. Les robots s'immiscent de plus en plus dans notre société, il serait injuste de les ignorer car eux aussi sont capables de comprendre des ordres phonétiquement.
Le Labomatique,
l'émission scientifique de Radio Campus Rennes.
Peut-on insuffler un vent d'autorité sur autrui ou au contraire se montrer conciliant, tout cela en musique? Comment la musique s'immisce-t-elle au sein de groupes sociaux et plus largement, quelle est sa fonction au sein de notre société? Autant de questions posées à Jean-Julien Aucouturier, chercheur en neurosciences de la musique au CNRS, le Centre National de la Recherche Scientifique, et travaillant à l'IRCAM, l'Institut de Recherche en Coordination Acoustique et Musicale de Paris, présent à Rennes en cette journée Sciences et Musique en qualité de conférencier.
Ce dont j'ai parlé, c'est est-ce que la musique peut communiquer ce que j'appelle des attitudes sociales? C'est-à-dire, très clairement, est-ce qu'on peut utiliser le signal musical de la musique pour être autoritaire ou dédaigneux ou faire comprendre à quelqu'un qu'on est en train de faire un pas vers lui et qu'on aimerait bien que lui aussi fasse un pas vers nous? Une conférence j'ai intitulée « Peut-on créer une société rien qu'avec de la musique ?»
Comment une série de notes influe-t-elle un ordre sur la personne qui l'écoute?
Et on a montré qu'il y a deux choses en fait. Quand on écoute ces petits duos enregistrés, donc où un des musiciens veut dire à l'autre qu'il va prendre soin de lui ou qu'au contraire il est le chef et que l'autre doit lui obéir ou que c'est l'autre qui est le chef et que par contre le premier aimerait bien être chef à la place du chef, etc. Tous les petits scénarios qu'on a fait. On s'est rendu compte qu'il y a deux types de comportements. Il y en a un qui est ce que j'appellerais des comportements un peu de type langage, prosodique, c'est-à-dire que dans le signal produit par un des musiciens, il y a des indices qui disent « je suis le chef, je parle fort, je parle peut-être des notes plus hautes, plus rapides, etc. »
L'autorité.
Ça sont des indices, finalement, on les entend très bien, même si on coupe la piste du musicien décodeur. Si on enlève la moitié de la musique, on entend toujours qu'il y a quelqu'un qui est en train de crier dans un saxophone et qui, visiblement, n'est pas en train d'être très gentil, mais plutôt autoritaire ou effronté, genre de choses. L'autre type d'indice, c'est des indices qui, au contraire, n'existent que quand on entend les deux en même temps. Typiquement, la coordination ou la synchronisation. Si je joue avec vous en même temps, par exemple, vous faites une mélodie, je joue un accompagnement à la tierce, très harmonieux là-dessus, on comprend que je suis en train de vous soutenir, qu'il y a une sorte de sens, de signification qui est là au fait de jouer avec. Et si au contraire je choisis que des accords qui vont dissonner avec ce que vous êtes en train de faire, je suis en train finalement d'exprimer un peu un désaccord, le mot est précisément ça. Et ce sont ces indices-là qui ont été reconnus dans notre expérience. Donc il y a un peu deux types de choses. Il y a l'aspect « je projette à l'autre et finalement je me moque un petit peu de sa réponse », j'envoie les indices qui correspondent à voilà, une voix autoritaire ou une voix soumise ou ce genre de choses, qui sont très prosodiques à mon avis, c'est-à-dire qu'on fait avec un saxophone ce qu'on ferait avec la voix, ou avec un piano d'ailleurs. Et il y a des indices dits d'interaction, coordination, synchronisation, ce qu'en anglais on appelle joint action, le fait d'agir ensemble. Et ces indices-là semblent être très importants dans ce qu'on étudie là. C'est-à-dire que très souvent, si on enlève l'autre, bah on ne sait pas si on est en train de faire un pas vers lui ou de faire au contraire un pas dans la direction opposée. Finalement, on n'a pas la réponse. Et ça semble assez particulier aux interactions musicales. En laboratoire, on arrive avec la musique à bien communiquer ces attitudes-là. Par exemple, on peut prendre des duos d'improvisateurs, de musiciens, et demander à l'un de faire comprendre à l'autre qu'il est en train de lui faire comprendre qu'il est le chef ou qu'au contraire il est en train de remettre en question l'autorité de l'autre, etc. Et on se rend compte que le musicien avec qui il joue bien, comprend très très bien ce qui se passe en fait, quasiment aussi bien que si c'était fait avec du langage. C'est un paradigme de psychologie un peu expérimentale qu'on appelle un paradigme de encodage-décodage. C'est vraiment de la communication de base, on a un signal, on veut faire comprendre quelque chose, on l'encode dans la musique. Et la musique est reçue de l'autre côté et on espère que le message va bien être décodé à l'autre bout. Alors on a effectivement un musicien encodeur à qui on donne la tâche d'encoder par exemple « Je suis le chef et je veux que tu me respectes ». Et on a un musicien qui joue avec lui et qui uniquement par la musique, uniquement par son interaction musicale avec l'encodeur, doit essayer de décoder ce message. Et on se rend compte que la plupart du temps, les décodeurs y arrivent très très bien.
Rien qu'avec certaines notes, si je maîtrise un instrument, je peux également maîtriser la personne en face de moi.
C'est pas plus sombre que le langage. C'est-à-dire que je peux dire des choses horribles avec le langage. Après, vous n'êtes pas obligé de les prendre pour vous ou de faire exactement ce que je vous demande de faire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est vraiment une expérience de laboratoire. Là. C'est qu'on essaye de voir si c'est possible de faire ça avec de la musique. On ne suggère pas qu'il faut le faire ou que c'est plus efficace que le langage, etc. Pourquoi est-ce qu'on se pose cette question, qui est un peu bizarre, c'est qu'en fait, il y a un peu des théories ou des questions qui se posent sur comment les hommes préhistoriques arrivaient à communiquer avant d'avoir du langage. Et on sait qu'on a retrouvé des instruments de musique très très vieux, des instruments qui datent de 50 000 ans, donc à peu près au même moment que les grottes de Lascaux, la grotte Chauvet, etc. Donc peut-être même avant qu'on ait une culture linguistique très élaborée avec « je veux que tu » c'est OD placé avant, etc. Finalement, peut-être qu'on pouvait arriver à organiser des groupes sociaux par une communication, ce que Darwin appelait un proto-langage musical, c'est-à-dire quelque chose d'avant le langage qui se fait probablement avec la bouche, mais qui ressemble plus finalement à du chant que de la langue telle qu'on la connaît aujourd'hui. Donc on a voulu prendre ça à la lettre finalement et essayer de voir avec de la musique si on est capable, jusqu'où on peut aller en fait. Est-ce qu'on fait juste quelque chose d'agréable au coin du feu ou est-ce qu'on est capable de faire plus élaboré et d'organiser une société finalement ?
La conciliation.
Vouloir faire de la musique, à la base, c'était un besoin, c'était une nécessité pour les individus, entre eux, pour un besoin de communiquer.
C'est la question qu'on se pose, en fait. Faire de la musique, c'est coûteux. C'est pas une activité qui a une fonction de survie très claire. On voit bien pourquoi on veut chasser, on voit bien pourquoi on veut se protéger du froid avec le chaud, avec le feu, on voit bien pourquoi on veut faire des armes pour se protéger des animaux sauvages. Ça a une fonction de survie. Souffler dans une flûte en os, on voit pas très très bien quelle est la fonction de survie, pourtant on l'a fait. Et en plus, c'est un trait culturel qui est conservé. Je fais beaucoup plus de musique au quotidien que de durcir des épieux de bois pour me protéger des bêtes sauvages. Donc c'est une fonction qui est devenue vraiment une part de notre culture extrêmement importante. Si elle avait aucune fonction, elle aurait probablement disparu. Et donc c'est cette question-là qu'on cherche. C'est à quoi ça sert, la musique, finalement ? Évidemment, on ne fait pas de la musique aujourd'hui pour organiser des groupes sociaux. Le but a pu être complètement perdu de vue, et heureusement, j'allais dire. Après, il y a la culture qui arrive dessus, on en a fait un art, on a codifié, voilà. Mais pourquoi est-ce qu'on a inventé ça au départ ? Probablement pas comme un loisir, ou alors ce loisir avait un intérêt. Peut-être que ce loisir avait un intérêt, qu'il fallait pour la santé du cerveau arrêter de penser aux mammouths et au feu et à l'épieu qu'il faut durcir au feu de bois, et faire quelque chose comme le rêve peut l'être, du cerveau qui active des images la nuit pour l'économiseur d'écran un petit peu. Peut-être que la musique était un économiseur d'écran, mais il y a d'autres théories. L'une d'elles était que la musique servait à créer du lien social. Le cadre, disons, sélection naturelle de Darwin, etc., nous fait penser, si on pense dans ce cadre-là, finalement, il n'y a pas d'activité gratuite, quoi. Toute activité qui perdure, qui a été maintenue, qui s'est formalisée avec une culture, c'est qu'elle avait une utilité. Sinon, c'est une perte de temps vis-à-vis d'autres activités qui auraient pu être plus utiles. L'utilité de ces activités peut être complètement éteinte aujourd'hui.
La musique ne risque-t-elle pas justement de créer des carcans ? Je prends un exemple simple, pourquoi la musique métal n'intéresse que les gens qui aiment le métal ?
Ouais, c'est une bonne question. Je sais pas si c'est une question qui est liée à cette question des origines de la musique. Je pense que ça, c'est vraiment une question sur l'organisation un peu, les dynamiques un peu fondamentales dans nos cultures où on a tendance à se rapprocher des gens pareils que nous. Là, on a des biais un peu comme ça. On voit même les gens se marient entre eux dans leur classe sociale, sur leur lieu de travail. Finalement, on s'associe aussi selon nos goûts musicaux, etc. C'est un peu un autre débat, mais la musique renseigne énormément sur la personne. Hein. C'est un peu, dis-moi ce que tu écoutes, je te dirai qui tu es, quoi. Je pense que c'est un phénomène phénomène un peu différent de cette histoire d'intérêt sociétal de la musique aux origines, mais c'est aussi une question intéressante.
Le dédain.
Il y a des effets un peu de société, effectivement, où certaines classes sociales préfèrent certains types de musique. C'est un peu la distinction de Bourdieu, tout ça, quoi. On affiche un peu ce qu'on est pour se reconnaître entre soi. Je pense que dans certaines sociétés, c'est complètement relatif, tout ça. C'est-à-dire qu'on va chez dans le pays voisin et la musique qui est classe d'un côté de la frontière devient complètement mal vue d'un autre côté. À mon avis, ce sont des dynamiques sociales. En fait, ça a été montré, c'est très arbitraire, en fait, toutes ces choses-là. C'est un peu le premier qui décide que ça, c'est bien, tout le monde suit. Et on peut même faire des expériences où si le premier décide que c'est l'inverse qui est bien, bah, tout le monde va suivre aussi. Finalement, ce qu'on appelle un peu les marchés culturels sont tout à fait arbitraires. C'est tout à fait soumis à l'ordre d'arrivée des marchandises sur le marché, on va dire. Est-ce que le cerveau est capable de reconnaître des comportements sociaux dans la musique ? Ce qu'on essaye de trouver là, c'est plutôt des choses qui seraient partagées par tous de la même façon.
L'attention.
Est-ce que la musique, finalement, nous cadrerait mieux pour mieux communiquer ?
Ah, faut faire attention en disant ça. Je connais pas d'études qui testent ça. Et ce qui est compliqué quand on regarde ça à l'échelle d'une population, c'est qu'il y a des essais. Est-ce que les musiciens sont plus intelligents, etc. En fait, on trouve pas directement de lien de cause à effet. C'est-à-dire que typiquement, sur une population, les enfants qui vont faire de la musique sont aussi de milieux socioculturels un peu plus élevés, etc. Ce qui fait qu'il y a plein d'autres variables, finalement. Ils ont aussi un autre accès à la culture, etc. Ce qui fait que la réussite scolaire est meilleure, mais on ne peut pas vraiment dire que c'est la musique qui cause ça. En fait, la musique est plutôt un symptôme de ça, plus que la cause. Ce qu'on a montré dans notre étude, là, c'est beaucoup plus restreint que ça. C'est-à-dire qu'on a fait, finalement, des morceaux de musique qui traduisaient certaines attitudes, ou des petits duos, où il y en avait un qui était clairement le chef, ou qui essayait d'être le chef et qui n'y arrivait pas, etc. Et on a montré que des auditeurs musiciens c'était plus facile pour eux de reconnaître ces attitudes sociales dans la musique que si on demande à des auditeurs non musiciens. Je pense que c'est vraiment un pas de côté de dire que, et donc les non musiciens ont du mal à comprendre les interactions sociales dans la société en général. Je pense que c'est faux. Il n'y a pas de différence particulière. Ce qui se passe dans notre étude là, c'est que probablement le langage par lequel ces attitudes étaient communiquées était un langage qui était connu seulement des musiciens, finalement. Enfin, plus on est plus familier à comprendre, tiens, si le saxophone module là, ça veut dire que machin, machin, ce qui sont des codes culturels, finalement. C'est un peu comme si on essaye de comprendre une interaction dans une langue qu'on ne connaît pas. On peut dire que les non-musiciens n'ont pas forcément appris la langue. Mais je ne pense pas que s'ils la connaissaient, ils comprendraient ça tout aussi bien que les auditeurs musiciens.
Thank you.
Labomatique,
l'émission scientifique de Radio Campus Rennes.
Les robots aussi peuvent comprendre des ordres par le biais de la musique et d'un instrument en particulier, notre voix. Nao est un de ceux-là. Antoine de Leforge, chercheur en traitement du signal et en intelligence artificielle à l'université d'Erlangen en Allemagne et travaillant sur le traitement du signal audio en robotique, nous décrit les fonctionnalités de Nao ainsi que ses aptitudes face à des ordres qui lui sont soumis.
Hello.
Hello, Nao.
C'est un robot humanoïde qui ressemble aux humains. Il s'appelle Nao, il est orange et blanc. Il fait 28 cm, il a deux bras, deux jambes, une tête. Il a deux yeux avec des caméras pour pouvoir nous voir, même si là, elles ne sont pas activées. Il a aussi quatre oreilles, et ces oreilles, en fait, c'est des microphones pour pouvoir nous enregistrer et comprendre quand on lui parle. Et il s'appelle Nao, j'ai dit qu'il s'appelait Nao. L'idée du robot Nao, c'est dans le futur, voilà, qu'il soit intégré dans nos maisons, qu'on puisse lui demander de faire des choses, qu'il nous réponde, qu'il marche vers nous pour nous dire bonjour. Une des applications qui est ciblée, c'est aussi l'assistante aux personnes en perte d'autonomie. Donc être capable de détecter si quelqu'un tombe, faire de l'assistance de base et de la communication un peu naturelle entre une personne âgée et le robot. Il y a aussi un projet de recherche en ce moment pour faire l'interaction entre le robot et des enfants autistes à vertu thérapeutique en fait. En fait, pas si simple que ça de comprendre les humains, parce qu'on pourrait se dire, le robot il a 4 micros, c'est 4 oreilles, c'est sûrement suffisant pour nous comprendre. Mais évidemment, le robot il a pas de cerveau, donc il est pas capable de nous comprendre si bien que ça. Un des défauts qu'il a aussi, c'est qu'il fait du bruit. Donc quand il remue ses bras pour nous dire bonjour, quand il remue la tête, et quand son ventilateur se met en route pour refroidir son ordinateur, ça fait du bruit. Et le robot il est en fait incapable de faire la différence entre le bruit que je fais quand je lui parle ou le bruit qu'il fait lui-même. Donc l'idée, c'est d'essayer de lui apprendre à reconnaître son propre bruit, pour l'ignorer. Il coûte pas très cher, il est fait avec des matériaux solides, du plastique et des moteurs de base qui font du bruit. Donc on n'a pas envie d'avoir un robot extrêmement coûteux. Et j'ai envie de dire, c'est un peu une illusion de penser qu'on pourra avoir un robot complètement silencieux, parce que n'importe quel robot qui marche, quand il va monter les escaliers, ou qu'il va marcher sur le carrelage, ou qu'il va se casser la figure, il va faire du bruit. C'est là que ça va être utile pour le robot de savoir reconnaître son propre bruit, quoi qu'il arrive en fait.
Ouch!
Sorry.
I am okay. I suppose I should get up.
On peut lui apprendre plein de choses. C'est un robot qui aime bien apprendre. Par exemple, j'ai fait un autre projet où on peut lui apprendre à localiser d'où viennent des sons. Donc typiquement, on aimerait bien que le robot, si on l'appelle, il tourne la tête vers nous. Donc ça veut dire être capable de voir d'où vient le son. Et ça c'est pareil, c'est un problème qui est assez difficile. Surtout dans des environnements compliqués où il y a des réverbérations et des choses comme ça. Et surtout du fait que ces micros ils sont à l'intérieur de sa tête, donc le son il arrive au micro en prenant des chemins compliqués. Pour faire ça on peut faire des méthodes d'apprentissage également. On peut apprendre au robot à localiser d'où viennent des sons. Alors moi je dis ça parce que je suis dans le domaine du son, mais il y a aussi des gens qui travaillent sur la vision évidemment du robot. Je sais qu'il y a des gens qui travaillent à faire que le robot puisse reconnaître nos visages, suivre notre visage du regard, être capable d'attraper des petits objets en le suivant de la main. Et beaucoup de ces choses-là, ça appartient au domaine de ce qu'on appelle l'apprentissage automatisé, où le robot va apprendre des choses.
Wow, what is that thing lying on the ground?
Il est plus facile de donner un ordre à un robot qu'à un humain finalement. Peut-on craindre qu'avec ce genre d'objet qu'est Nao, que le robot s'impose dans certains corps de métier?
C'est une bonne question. Alors bon, pour le moment, ça reste complètement futuriste d'imaginer un robot remplacer énormément de métiers. Les robots utilisés actuellement, c'est plutôt des robots d'usine ou des robots qui vont pouvoir remplacer les humains pour faire des travaux très pénibles, comme dans des zones vraiment dangereuses, radioactives, voilà, ou découper des plaques de tôle. Le robot Nao, il n'a pas cette vocation-là, il n'a pas non plus une vocation, a priori, à remplacer un métier, il est plutôt vu comme un compagnon, assez inoffensif en fait. La peur que le robot remplace des métiers, c'est vrai que c'est des choses qui arriveront peut-être dans le futur, mais en tout cas, peut-être pas à cette échelle-là, en tout cas, le fait de pouvoir interagir naturellement avec un robot, c'est quelque chose voilà, qui va aussi nous faciliter la vie, dans le sens où voilà, on n'a pas besoin de rentrer des commandes manuellement dans un robot. Après, il faudrait demander à la compagnie qui fabrique ce robot, Aldebaran Robotics. Quelle est leur vision exactement pour le futur? Mais c'est vrai qu'il y a aussi des questions éthiques à se poser.
Have you seen my Roberta? Oh, I don't know. I am sorry.
Dans votre domaine, quelles sont les recherches en cours?
Bah, l'audition pour la robotique, c'est un domaine qui est en pleine explosion. Au niveau recherche, il y a énormément de problèmes pas résolus. Donc celui de la réduction du bruit en est un. Celui de, évidemment, de la reconnaissance de la parole, du langage naturel. C'est un problème aussi qui est, sur lequel l'industrie a une attention très très forte en ce moment. On connaît notamment le système Siri sur les téléphones portables qui va reconnaître des ordres mais qui est évidemment perfectible. Il y a presque des problèmes à tous les niveaux du traitement du son. Le traitement du son, c'est un domaine qui existe depuis des décennies et des décennies. Mais quelque part, la robotique, ça pose tous les problèmes qu'on avait l'habitude de traiter dans des environnements de laboratoire où il n'y a pas trop de bruit, où les choses sont bien claires. Et il faut repenser complètement le problème quand on a un robot qui est dans une vraie pièce, avec quelqu'un qui frappe à la porte, des fenêtres ouvertes, plein de gens qui parlent. Tous ces problèmes-là deviennent beaucoup plus compliqués, en fait, dès qu'on a un robot. Donc c'est un peu notre mission de recherche. Goodbye. See you soon.
Le premier épisode du Labomatique, c'est fini. Sachez que le Festival des Sciences vous est ouvert jusqu'au 11 octobre à l'Espace des Sciences au Champ Libre de Rennes. Nous remercions Jean-Julien Couturier ainsi que Antoine Deleforge de nous avoir accordé un entretien. Vous pouvez retrouver le podcast de cette émission sur le site www.radiocampusrennes.fr.